monde au féminin.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers, reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Le 23 octobre 2019, la justice tanzanienne a confirmé un arrêt jugeant anticonstitutionnel et discriminatoire une disposition autorisant le mariage de filles mineures. La décision confirme un jugement de la Haute Cour de juillet 2016 sur la requête de la militante Rebecca Gyumi contre lequel l'État avait fait appel. La loi datant de 1971 autorise le mariage des filles à l'âge de 15 ans avec le consentement des parents et à 14 ans sur acceptation d'un tribunal, alors que l'âge minimum pour les garçons est de 18 ans. Hormis le caractère discriminatoire de ces dispositions, la Cour avait estimé contradictoire qu'une fille jugée trop jeune pour voter puisse être partie à un contrat tel que le mariage. 2 filles sur 5 sont mariées avant l'âge de 18 ans en Tanzanie et généralement retirées de l'école. Les Iraniennes mariées à des étrangers peuvent désormais transmettre leur nationalité. Le Conseil des gardiens de la Constitution de la République islamique a approuvé une loi ouvrant cette possibilité. Ce texte est perçu comme une avancée pour des milliers d'enfants nés de pères afghans qui ne peuvent pas jouir des mêmes droits que les jeunes Iraniens. Cette loi rétroactive ne prévoit pas une transmission automatique de la nationalité par la mère qui devra en faire la demande avant les 18 ans de l'enfant. L'eurodéputé belge Assita Kanko, excisé à l'âge de 5 ans, avait proposé pour le prix Sakharov la candidature de 5 adolescentes kenyanes qui ont développé une application pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Ce que je tire de mon expérience personnelle, c'est que personne ne vient quand vous appelez au secours. Cela fait extrêmement mal, vous appelez, vous suppliez. C'était la journée la plus terrible de ma vie, a déclaré l'eurodéputé. L'application de ces adolescentes permet de demander de l'aide ou de dénoncer, donc est susceptible de faire éviter l'excision à des milliers de filles. Il suffit d'activer un bouton pour alerter la police. Le prix Sakharov 2019 a été décerné à Ilham Toti, un Chinois qui milite pour les droits de la minorité ouïghour.
Parole de femme.
Près de 36 000 personnes ont fui le conflit dans les zones anglophones du Cameroun depuis 2017 et sont entrées au Nigeria. Leurs hôtes ont manifesté leur solidarité. Suzanne Agbo, mère de famille réfugiée, a trouvé du réconfort auprès de Lucia Ikuru, une veuve nigériane qui lui a ouvert la porte de sa maison. Blanche Sanou nous en dit plus.
Forcée de quitter son domicile dans la région occidentale du Cameroun, Suzanne ignorait ce qui l'attendait dans cette nouvelle aventure. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait amener ses 8 petits-enfants dans un endroit plus sûr.
Quand je suis arrivée au Nigeria, je restais chez des gens. 2 semaines ici, ensuite je quittais un complexe pour un autre. Je restais souvent 1 mois ou plus. J'ai longtemps erré avant de trouver refuge ici.
Suzanne a eu la chance de rencontrer Lucia, une veuve nigériane qui vit à la frontière avec le Cameroun. Elle lui a ouvert les portes de sa demeure.
Si cette femme va ailleurs et que quelque chose lui arrive, je me sentirai coupable. Je suis heureuse maintenant de l'avoir avec moi.
Même si elle apprécie le geste de sa bienfaitrice, Suzanne espère tout de même que la situation s'améliorerait chez elle afin qu'elle puisse rentrer. En attendant, elle continue de s'adapter à sa nouvelle vie. Pour rappel, l'escalade du conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun a provoqué le déplacement de plus de 437 000 personnes dans le pays et de plus de 36 000 autres à l'étranger.
Mossi Boudijo Matole et Komotso Ramodipa sont des perles rares dans l'industrie du diamant, un secteur dominé par les hommes. Ces sœurs sud-africaines dirigent l'une des rares entreprises de polissage de diamants au monde, dont une femme est propriétaire. Et malgré le ralentissement du marché mondial des diamants et la contraction de cette industrie en Afrique du Sud, elles ont continué à prospérer et à soutenir de nouveaux talents féminins. Dili Diko nous en dit plus.
Une passion pour les diamants a poussé deux sœurs sud-africaines, Mossi Boudijo Matole et Komotso Ramodipa, à abandonner leur carrière en banque d'affaires et en optométrie. Après avoir obtenu leur certificat d'évaluatrice de diamants, elles ont ouvert en 2008 un atelier de taille et de polissage, le premier et le seul tenu par des sœurs en Afrique du Sud.
Les barrières à l'entrée ne se limitent pas au fait d'être une femme ou un homme. La difficulté est dans le fait de posséder une structure de ce genre. Il faut donc injecter suffisamment de capital et pour une femme, c'est à ce niveau que ça devient compliqué car l'industrie est dominée par les hommes.
Considérant les défis comme des opportunités, les deux sœurs se sont frayées un chemin dans l'industrie du diamant en ne vendant que des pierres certifiées provenant de sources légales et achetées à des sociétés minières opérant en Afrique du Sud. Kwame Diamonds occupe désormais une place de choix dans la taille et le polissage de diamants taillés sur mesure.
Être capable de produire un diamant Forever Mark, qui selon eux représente 1% des diamants produits dans le monde, si vous êtes capable de polir ce type de diamant, alors vous faites partie des meilleurs. Nous pouvons donc dire avec fierté que nous sommes parmi les meilleurs.
Matole et Ramodipa ont à cœur d'employer et développer les compétences des femmes dans l'industrie du diamant. À l'échelle mondiale, les marges de profit de diamants polis sont en baisse et l'industrie sud-africaine est passée de 4500 polisseurs il y a 25 ans à seulement 250 aujourd'hui. Mais l'entreprise des deux sœurs a non seulement réussi à rester sur le marché, mais également à acquérir une réputation d'entreprise innovatrice.
Ce qui vous distingue, c'est la façon dont vous abordez les secteurs. Alors oui, l'industrie se contracte, mais nous ne devons pas nous laisser faire. Nous sommes ici pour nous assurer de notre expansion.
Ces sœurs dynamiques sont déterminées à prouver, non pas que les diamants sont les meilleurs amis des filles, comme le chantait Marilyn Monroe, mais plutôt qu'il s'agit d'une industrie dans laquelle les femmes peuvent briller.
Le démantèlement d'un site pédophile mi-octobre a conduit à 337 arrestations dans 38 pays et à l'inculpation de son gérant sud-coréen aux États-Unis. Les interpellations ont été réalisées en lien avec le site internet Welcome to Video, selon l'agence britannique de lutte contre la criminalité organisée. Ce site rassemblait 250 000 vidéos qui ont été téléchargées plus d'un million de fois selon le ministère américain de la Justice. Il était géré depuis la Corée du Sud par Jong-woo Sun, 23 ans, qui a été emprisonné dans son pays et inculpé aux États-Unis.
Si je ne pouvais.
Global Alumni Association of Togo a organisé un concours de pitch dénommé Yali Pitch Competition pour des jeunes porteurs de projets. La compétition a eu lieu le 24 octobre entre boursiers régionaux du programme Yali, l'initiative pour les jeunes leaders africains. Ce concours, qui en est à sa deuxième édition, mise sur l'originalité et l'impact social. Un reportage de Kay Lawson.
Sur les 6 projets sélectionnés pour la finale du Yali Pitch Competition, 3 ont été primés. Manibé Zouenyaro, qui a remporté le premier prix, a défendu son projet de ferme agroécologique.
En 2016, j'ai lu un article de l'OMS dans lequel il y avait plus de 3 millions de personnes dans le monde qui ont perdu la vie pour avoir mangé des aliments produits avec des pesticides chimiques. J'étais scandalisé parce que c'était la moitié de la population de notre pays, le Togo. Nous avons créé une ferme école agroécologique qui nous permet d'offrir des fruits et légumes naturels à nos concitoyens. L'aspect le plus important dans tout ce que nous faisons, c'est l'humain, c'est la jeunesse togolaise que nous voulons encourager dans l'entrepreneuriat agricole et surtout agroécologique.
La présidente du jury, Essie Farida Geraldo, revient sur le choix du jury.
Le premier prix, nous l'avons choisi à cause de l'originalité et surtout de l'impact sur tous les plans. L'impact social, l'impact sur la santé et tout, et la clarté du projet. Parce que la plupart des candidats ont des idées qui sont intéressantes, mais n'ont pas pu montrer vraiment la richesse et l'impact de ces projets-là.
Les projets primés lors de ce pitch ont un dénominateur commun, l'impact social. Boutamekwa Adakpo est le promoteur du projet Anti-Volvo Autodéfense. Son objectif, contribuer à la sécurité des personnes et des biens, notamment les motos.
Nous sommes partis d'un constat, beaucoup de motos sont volées et moi-même qui ai été victime. Donc nous avons pensé mettre en place Anti-Vol Moto Défense, qui est un dispositif qui permet de pouvoir sécuriser les motos contre le vol, que ce soit en stationnement ou bien en situation de braquage. Une fois que le système est installé sur votre moto, ça permet au moteur de pouvoir se bloquer et en même temps déclencher une alarme.
Le premier prix est de $800, le second $650 et le troisième prix $500. Deux petits fonds qui peuvent constituer un premier pas dans le monde entrepreneurial, a estimé Herman Toto, président du Global Alumni Association of Togo, GATS.
Nous avons constaté qu'il y a plein de ces jeunes qui rédigent de bons projets, mais qui n'ont pas d'appui, aussi petit soit-il, pour démarrer. Donc nous sommes dit, avec ce concours, nous pouvons aider chaque année 3 à démarrer leur activité et se prendre en charge.
Yali Pitch Competition est l'une des activités du mois des alumni, les anciens bénéficiaires des programmes d'échange et d'études aux États-Unis. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Cameroun, le premier forum culturel sur les risques liés à la migration clandestine s'est tenu fin octobre à Yaoundé. Il a été question de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière, le bien fondé de celle dite régulière, et de leur montrer aussi les opportunités d'insertion socio-professionnelle existantes dans le pays. Revenons sur l'événement avec notre correspondant Emmanuel Julntap.
De nombreux élèves, étudiants et jeunes en quête d'opportunités d'emploi ou de formation à l'étranger ont été sensibilisés au cours du forum sur la migration. Les anciens migrants notamment leur ont parlé des dangers de la migration irrégulière. Rostand Biloa, élève en classe de seconde dans un lycée de Yaoundé, a pris part au forum.
Si elle est illégale, nous avons juste un prix à payer, la mort. Et pourtant, si nous allons légalement, nous pouvons prouver tellement d'avantages.
L'option d'émigrer régulièrement Liban a également fait l'objet d'échanges pendant les deux jours du forum. La branche locale de l'ONG AISEC a présenté aux jeunes les opportunités de migration régulière. Isaac Yami est chargé des talents au sein de l'ONG AISEC à Yaoundé.
On a trois programmes. Le premier programme, c'est le programme de Global Entrepreneur. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est au Cameroun peut aller dans un autre pays pour développer son leadership au travers d'un stage académique. Le deuxième programme que j'avais proposé, c'était le programme de Global Volontaire, où je vais dans un pays aussi pour faire du volontariat à travers les ONG. Enfin, le troisième projet, c'est Global Talent. Là, il s'agit de me vendre à l'international. J'ai déjà des capacités à travailler. Alors, je signe un contrat avec une entreprise à l'étranger et puis je passe travailler là-bas pour un contrat à durée déterminée.
Toutefois, au cours du forum, les organisateurs ont mis un accent sur les secteurs pouvant permettre aux jeunes de gagner leur vie au Cameroun. À cet effet, les activités de l'association dénommée « Un diplômé, un champ » créée en août dernier ont été présentées comme pionnières. Alain-Georges Lietbo, fondateur de la dite association.
Le principe est simple. Les jeunes viennent, on leur parle du projet. Lorsqu'ils sont intéressés, ils viennent, ils vont au champ. On va au champ deux fois par semaine. Lorsqu'on va aller vendre les produits, les jeunes qui ont participé au projet, au lieu de leur donner de l'argent pour leur main d'œuvre, on va donner une forme de bourse. Par exemple, si un jeune veut faire par exemple du piment, on lui donne la semence. On lui donne également la terre, on la cadre.
À ce jour, l'association Un diplômé, un champ possède un champ communautaire de légumes de 3500 m² dans la périphérie de Yaoundé. Le premier forum sur la migration au Cameroun a été initié par l'ONG de droit camerounais Solutions aux migrations clandestines qui sensibilise sur la question depuis une dizaine d'années. Yves Tiala, son président, pense avoir trouvé la bonne formule pour parler de la migration au Cameroun.
On a imaginé cette plateforme où on pourra avoir tout le monde sur place au même endroit, et notamment les organisations pour pouvoir s'exprimer, pour parler de migration légale en Europe, en Tunisie, etc.
Plus de 3400 Camerounais pris dans l'engrenage des passeurs ou de la traite des êtres humains en Libye ou ailleurs ont été secourus et ramenés au pays grâce à l'Organisation internationale des migrations. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Et oui, et c'est la jeunesse pouvait.
Un nombre croissant de femmes et de filles de Côte d'Ivoire sont victimes de traite d'êtres humains vers l'Afrique du Nord et l'Europe, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Beaucoup sont soumises à une vie de servitude à leur arrivée en Tunisie ou en Libye. Ils sont victimes d'abus sexuels et autres violences et de privation de liberté, indique l'OIM, ajoutant qu'elles sont aussi la proie de contrebandiers visant à les exploiter à leur arrivée en Europe. Alors qu'elles ne représentaient que 8% des Ivoiriens ayant débarqué en 2015, elles sont 46% du total en 2019. Une Ivoirienne noyée en Méditerranée avec son bébé de 8 mois serré dans ses bras sont devenues le symbole d'un naufrage dans lequel de nombreuses femmes ont péri noyées.
Entre parenthèses.
Un vent de liberté est le nom d'un festival qui se tient dans les prisons du Burkina Faso depuis 10 ans. L'objectif de l'événement est d'apporter une certaine humanisation dans le milieu carcéral et de formuler des plaidoyers en faveur des détenus qui sont dans des conditions précaires ou qui ont besoin d'une attention particulière, comme notamment les femmes et les enfants. Un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Lamine Traoré.
Des milliers de détenus dans le plus grand établissement pénitentiaire du pays, la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Des musiciens se succèdent sur le podium dressé à l'occasion. Nous sommes au festival Un Vent de Liberté. Parmi les musiciens, Johnny, cet ex-prisonnier converti aujourd'hui à la musique.
J'étais à l'école. Bon, l'école n'a pas aussi marché.
Jonathan Sigue dit Johnny.
J'ai un peu déraillé la mauvaise compagnie et tout, jusqu'à ce que je me retrouve en prison. Et dans mes chansons, mais premier morceau, bon, je parle de ma propre mère d'abord, parce que c'est une, réellement, je l'ai fait beaucoup souffrir. pas mes actes, la prison et qu'on soit tel appareil, se retrouver quelques années ici de retard, ça ne sert pas.
Depuis 10 ans, le festival se tient dans les prisons au Burkina. Dans la mission de l'administration pénitentiaire, il y a non seulement la garde, mais aussi la réinsertion sociale des détenus.
Toute activité qui peut amener le détenu à se sentir utile à lui-même et puis utile à la société, là, nous prenons ces activités-là.
Claude Ouédraogo, régisseur de la MACO.
Les activités de loisirs, la musique, là, ça adoucit les mœurs. Au-delà de cela, ça prépare l'homme même à mieux s'organiser pour et à enclencher des activités. La prison n'est plus un milieu où on incarcère seulement sans préparer la réinsertion sociale. Là.
Les organisateurs, à travers un vent de liberté, veulent interpeller les autorités à se pencher sur les dures conditions de détention des prisonniers. Freeman Tapilier, le promoteur du festival.
Nous, en tant qu'organisateurs, moralement, on est satisfaits. En 10 ans, il y a beaucoup de témoignages que nous avons réussi à entendre de leur part et nous sommes vraiment satisfaits. Nous, on pense qu'il faut doter toutes les maisons d'arrêt de correction en serviettes hygiéniques pour les femmes qui sont indisposées quand elles sont incarcérées. Là, nous interpellons le ministère de la Femme, le ministère des Droits humains, le ministère de la Justice, même la présidence, l'Assemblée nationale. Il faut prendre une loi claire pour qu'on dote les maisons d'arrêt en serviettes hygiéniques. Parce que c'est la dignité féminine. Voilà. Il faut aussi qu'on on traite le cas des enfants, des bébés qui sont dans les maisons d'arrêt de correction. Il faut qu'on prenne une décision claire et puis l'hygiène. L'hygiène dans les maisons d'arrêt de correction.
10 prisons seront sillonnées pour ces 10 ans du festival Un vent de liberté. Au programme, des spectacles et des repas au profit des prisonniers. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, environ 70% de la population vit dans des zones peuplées à très faible revenu, dépourvues de commodités de base. Le pays est en manque de plus de 22 millions de logements, selon l'ONU. Gilbert Tamba a cherché à savoir comment vivent les familles et les personnes vulnérables dans de telles conditions.
La demande de logements abordables au Nigeria continue d'accroître plus vite par rapport à l'offre, surtout dans les zones urbaines du pays, en particulier à Abuja. Cet endroit s'appelle Gishiri, un grand quartier isolé, pourtant au centre de la capitale fédérale du Nigeria. Faute de logements abordables, dans une capitale qui doit répondre aux besoins de près de 3 millions d'habitants, beaucoup se retrouvent dans des agglomérations pareilles.
Je vis ici à Gishiri parce que je n'ai pas le choix. C'est l'endroit où vivent les pauvres. Vous me comprenez? Parce que je n'ai pas les moyens d'aller vivre dans le centre-ville. C'est la raison pour laquelle je me le trouve dans ces habitations pour me débrouiller.
Les maisons d'ici ne sont pas du standard comme vous voyez. Les écoles et tout le reste, rien n'est bon. Nous ne sommes pas contents. Nous demandons au gouvernement de nous aider pour l'eau, la route et tous les autres besoins.
Chaque année, plusieurs centaines de personnes arrivent de la campagne à la recherche d'un emploi, ce qui accentue cette crise du logement dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les risques sanitaires encourus par les habitants de ces bidonvilles préoccupent aussi les autorités. Des passages récemment au Nigeria, une délégation onusienne conduite par Leila Nefera a décrit les conditions de certains établissements informels au Nigeria comme inhumaines et peut-être les pires du monde.
Nous estimons à 22 millions le déficit en termes de logements dans ce pays. Donc il y a un manque de 22 millions de logements. Au moins 69 à 70% de la population urbaine vit dans des habitations informelles.
Les autorités d'Abuja, le siège du gouvernement fédéral, font face aujourd'hui à un problème. Ce site n'est pas le seul endroit où les populations vivent dans les conditions similaires. D'autres sites aux alentours de la capitale fédérale continuent de recevoir de nouveaux arrivants. Gilbert Tamba, Abuja, pour VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.